18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
C'est très compliqué, la tension elle est maximum. Nous avons atteint des chiffres de présence de patients qui sont supérieurs à ce que l'on a eu dans l'année.
Et oui, des chiffres qui laissent peu de place au doute. Le Pas-de-Calais devrait bien être confiné le week-end. L'Île-de-France et Marseille, en revanche, sont épargnés. Nous serons à Saint-Omer dès le début de ce journal.
Ou avant même les annonces du Premier ministre, les habitants ne se font aucune illusion.
Le cas par cas continue. Jean Castex devrait annoncer dans un instant de nouvelles restrictions. Elles pourraient également concerner les commerces de plus de 5000 mètres carrés.
Derrière son Premier ministre, Emmanuel Macron est donc à la manœuvre, nous dira Jean-Rémy Baudot, enjeu sanitaire et enjeu politique.
Édouard Balladur, relaxé dans l'affaire Karachi plus de 25 ans après sa campagne présidentielle malheureuse. François Léotard, lui, est condamné.
Le cannabis thérapeutique expérimenté en France, c'est pour très bientôt, mais pas pour tout le monde, nous dira Anne Le Gall.
Le réalisateur Jean-Luc Godard, 90 ans, prêt à tourner la page. Il prépare ses adieux, mais ne lui dites surtout pas qu'il est à bout de souffle. La Bourse de Paris a terminé à l'équilibre, plus 0,01% à 5830 points.
La météo Anissa Haddadi avec une légère amélioration demain.
Oui, nous aurons au programme moins d'averses et plus d'éclaircies, mais les températures sont encore en baisse demain. Il va faire froid, surtout le matin. Je vous donne plus de détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc Jean Castex qui monte au créneau ce soir pour présenter les choix du gouvernement pour la suite de la crise sanitaire.
Oui, le Premier ministre est attendu notamment sur de nouvelles restrictions dans un contexte qui reste, on le sait, très préoccupant.
Et on attend notamment la confirmation d'une minute à l'autre. Mais a priori, si l'Île-de-France et la région de Marseille devraient être épargnées, le département du Pas-de-Calais, lui, devrait à son tour passer sous le régime d'un confinement le week-end.
Oui, vous savez, comme à Dunkerque et une partie des Alpes-Maritimes, il faut dire que les chiffres y sont mauvais et surtout la tension hospitalière est très forte.
Maximilien Carlier, on vous retrouve à Saint-Omer. C'est là où l'on relève le taux d'incidence le plus élevé de ce département.
Oui, tout à fait. Ici, c'est plus de 500 cas pour 100 000 personnes. Des Audomarois qui ont clairement du mal à comprendre ce reconfinement vécu comme une injustice.
En Seine-Saint-Denis, ils ne sont pas confinés. Pourquoi ?
Bah, c'est très, très normal, c'est bon. Surtout que la région parisienne, où il y a beaucoup plus de population que par chez nous.
Dans le Pas-de-Calais, c'est 1 400 000 habitants tout de même, amenés à rester à la maison les prochains week-ends. Des habitants et des commerçants résignés, comme Frédéric, qui tient une boutique de prêt-à-porter.
J'ai l'impression que on nous tue à petit feu, en fait. On nous fait fermé à 6h. Les samedis où l'on travaille, on nous dit maintenant on va fermer. Mais qu'est-ce qui nous reste nous là-dedans ? Qu'est-ce qui nous reste ?
Juste en face de ce magasin, une officine. Chaque jour en moyenne, il y a une dizaine de tests antigéniques et à chaque fois, un cas positif. Laura, pharmacienne.
Ça fait peur parce qu'on voit que il y a eu un petit relâchement. On a aussi le sentiment que les personnes sont lassées et veulent quand même profiter.
Et d'après plusieurs médecins généralistes, ce taux d'incidence élevé à Saint-Omer s'explique par la présence importante du variant anglais plus contagieux et la proximité géographique avec Dunkerque.
Maximilien Carlier à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, ce département qui devrait donc passer en mode confinement week-end dès demain soir.
Et donc on suit évidemment ces annonces du Premier ministre en direct sur Europe 1. On aura l'occasion de les décrypter avec les grandes voix à partir de 18h30 et notamment avec Guillaume Rosier, le fondateur du fameux site Covid Tracker.
Mesures sanitaires mais aussi économiques avec sans doute également l'annonce dans les zones à flux tendu de la fermeture des commerces de plus de 5000 mètres carrés. Là encore, on suit ça de très près et on vous dit tout.
Oui, si c'est le Premier ministre qui se charge de ces annonces ce soir, on sait que le président de la République est très impliqué et qu'au final, eh bien, c'est lui qui a le dernier mot.
Parce qu'en l'occurrence, Jean-Rémy Baudot, en l'occurrence, il s'agit de choix sanitaires, certes, mais aussi éminemment politiques.
Oui, c'est politique car tout le monde le sait, seul le président est réellement comptable des options prises par l'exécutif. Et pour Emmanuel Macron, le confinement, c'est l'ultime solution. Si on peut éviter le confinement, on le fait, explique le président en privé. D'où ce choix, tenter de gagner du temps pour que la vaccination et peut-être le retour du printemps permettent de réduire un peu la pression. Évidemment, ça n'est pas sans créer de tensions. Même au sein du gouvernement, il se dit que le président serait parfois un peu seul face à son Premier ministre et à son ministre de la Santé. Évidemment, chacun apporte son regard, nuance un conseiller du président. La réalité est sans doute un peu plus contrastée. Le Conseil de défense, c'est un terrain de débat, pas une bataille de tranchées, tempère un conseiller d'Olivier Véran. Pas de combat, mais en pratique un président qui choisit et un exécutif qui exécute. Le Premier ministre joue bien souvent le rôle de porte-voix, c'est encore le cas ce soir. Un choix logique car effectivement, l'Élysée veut gagner du temps et s'éviter des polémiques.
Jean-Rémy Houdot qui va suivre donc pour Europe 1 ces annonces du Premier ministre.
Alors on vient de l'entendre, la stratégie du chef de l'État, c'est d'éviter à tout prix un reconfinement généralisé et de tout miser donc sur la vaccination.
À propos de vaccination, justement, peut-être bientôt une option supplémentaire pour l'Europe, puisque l'Agence européenne du médicament vient de commencer à évaluer le vaccin Spoutnik. Vous savez, c'est ce vaccin russe qui avait suscité quelques moqueries au début, mais que finalement l'Europe commence à prendre au sérieux. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Oui, les experts européens ont enfin reçu des données du laboratoire russe et donc ils entament ce qu'on appelle une étude continue, c'est-à-dire l'examen des résultats scientifiques au fur et à mesure qu'ils leur parviennent. En parallèle, le fabricant du Spoutnik va lui constituer son dossier de demande de mise sur le marché européen. Quand il le déposera, une partie de l'expertise sera donc déjà faite. Ça permet de gagner du temps pour les autres vaccins. Entre le début de l'étude continue et l'autorisation, il a fallu compter entre 2 et 4 mois. Le labo russe se dit prêt à fournir 50 millions de doses à l'Europe à partir de juin. Un chiffre qu'il faut comparer tout de même aux 600 millions de doses commandées par les 27 à Pfizer ou aux 400 de Janssen et Janssen, vaccin qui devrait être autorisé dans une semaine. À ce stade, il n'y a pas de contact entre les Russes et Bruxelles pour un contrat global européen. Ça n'interdit pas aux États de négocier en bilatéral. La Hongrie ou la Slovaquie ont choisi de le faire sans attendre l'agence du médicament. De son côté, Emmanuel Macron n'a pas fermé la porte à des achats russes, mais pas avant de connaître le feu vert des experts.
Merci beaucoup Isabelle Horry, en direct de Bruxelles.
En tout cas, si ça se confirme, ça ferait tout de même 7,5 millions de doses pour la France, ça n'est pas rien. 18h06, la suite du journal, c'est l'autre grand titre du jour. Édouard Balladur obtient la relaxe dans l'affaire Karachi.
Oui, l'ancien Premier ministre est blanchi par la Cour de justice de la République. Il s'agit, vous le savez, de l'affaire du financement présumé occulte de sa campagne présidentielle de 1995 grâce à des rétrocommissions.
Son ancien ministre de la Défense, François Léotard, est lui en revanche condamné à 2 ans de prison avec sursis pour complicité d'abus de biens sociaux.
Et finalement, Chloé Triomphe, Édouard Balladur est le seul à sortir indemne de cette affaire.
Oui, et à 91 ans, Édouard Balladur n'était pas présent tout à l'heure pour assister à son jugement, mais il s'est félicité par un communiqué de cette décision. La Cour a certes noté que les 10 millions de francs en liquide étaient venus opportunément combler le déficit de son compte de campagne, mais n'a pas établi de lien formel entre ce dépôt et l'argent retiré en Suisse quelques jours plus tôt par l'intermédiaire Ziad Takieddine. La Cour l'a donc relaxé, faute de preuves, comme s'en est félicité son avocat, maître Félix de Bélois.
25 ans après les faits, 25 années pendant lesquelles Édouard Balladur a eu à subir toutes les rumeurs, les calomnies, des accusations publiques parfois répétées quotidiennement, Édouard Balladur est enfin innocenté.
Quant à François Léotard, son ancien ministre de la Défense, lui aussi absent ce matin, la Cour a estimé qu'il avait au contraire joué un rôle moteur et central dans les tractations autour des contrats d'armement passés par la France. Il a écopé de 2 ans de prison avec sursis au vu de l'ancienneté des faits et de 100 000 euros d'amende. Les avocats des familles de victimes de l'attentat de Karachi ont quant à eux déploré cette décision alors que dans le volet non ministériel de cette affaire, 6 protagonistes ont été condamnés en première instance par un tribunal correctionnel.
Chloé Triomphe qui a donc suivi ce procès pour Europe 1.
Autre affaire judiciaire avec le procès du célèbre hacker franco-israélien Ulkan.
Oui, jugé en son absence pour des canulars malveillants visant des personnalités, notamment Martine Aubry. Certains de ces canulars ont pris un tour dramatique puisque le père d'un journaliste a été victime d'un infarctus à la suite de l'un de ses appels. Ulkan s'était fait passer pour un policier et lui avait annoncé la mort de son fils.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous, 18h08, dans quelques secondes, la suite du journal. Le cannabis thérapeutique expérimenté en France. Comment? Pour qui? On vous dit tout dans un instant.
Et puis l'un des plus grands réalisateurs français, Jean-Luc Godard, qui s'apprête à tirer sa révérence.
18h10, la suite du journal. On en vient à ce serpent de mer, la légalisation du cannabis thérapeutique. On n'en est pas encore là en France, mais les choses sont en train de progresser doucement, mais sûrement, Isabelle.
Oui, puisque ça y est, les expérimentations vont commencer dans quelques jours. Ça veut dire que le cannabis va être testé pour ses vertus médicales sur des malades, bien sûr. Alors Anne Le Gall, ça va concerner qui et comment vont se passer ces expérimentations?
L'expérimentation devrait démarrer d'ici la fin du mois. Elle concerne des patients dont les douleurs ne peuvent pas être soulagés par les médicaments actuels, notamment des personnes atteintes de sclérose en plaques, d'épilepsie sévère, certains cancers. Il sera aussi utilisé en soins palliatifs. Chacun des volontaires testera pendant au moins 6 mois l'usage du cannabis thérapeutique sous forme d'huile ou de fleurs séchées consommées en inhalation. C'est une nouvelle étape décisive, explique Christelle Ratigné-Carboniel, directrice générale de l'Agence nationale du médicament.
Je suis particulièrement fière, en effet, du lancement de cette expérimentation. C'est quelque chose qui est important pour les patients. C'est bien notre rôle de pouvoir proposer un médicament avec évidemment toute son innovation dans un contexte le plus sécurisé possible.
La sécurité et la qualité des produits sont en effet prioritaires. 6 prestataires vont fournir ces médicaments à base de cannabis, dont la concentration en THC et CBD, les deux substances actives, ont été soigneusement testées en amont. L'expérimentation doit durer 2 ans et à terme, la France tranchera sur cette utilisation du cannabis à des fins médicales, comme cela se fait dans d'autres pays.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
Et puis ces dernières minutes concernant la conférence de presse de Jean Castex qui se tient en ce moment rue de Ségur. C'est donc confirmé, le week-end sera confiné pour le Pas-de-Calais, comme on s'y attendait. À noter que 3 nouveaux départements sont placés sous surveillance. Il s'agit des Hautes-Alpes, de l'Aisne et de l'Aube. Et puis la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 10 000 m² est également confirmée dans ces départements à risque. On y reviendra évidemment tout à l'heure dans le rappel des titres.
Les intermittents du spectacle de nouveau dans la rue ce jeudi dans toute la France.
Oui, pour alerter une nouvelle fois sur leur situation dramatique, 1 an tout juste après la fermeture des lieux culturels, ils estiment que le gouvernement les a abandonnés.
Et à Paris, certains occupent même en ce moment le Théâtre National de l'Odéon.
C'est un monstre du cinéma français, Jean-Luc Godard, qui annonce aujourd'hui à 90 ans qu'il pense sérieusement à prendre sa retraite.
Jean-Luc Godard, réalisateur phare de la nouvelle vague, une carrière exceptionnelle. Diane Chénouda, alors c'est peut-être pas tout à fait terminé, hein, parce qu'il a encore deux projets sur le feu avant de tirer sa révérence à Jean-Luc Godard.
Oui, à bout de souffle, le mépris, Pierrot le fou, Godard a enchaîné les chefs-d'œuvre qui ont révolutionné l'histoire du cinéma avec la nouvelle vague. Et oui, Godard, qui est un peu le Picasso du cinéma, annonce la voix chevrotante, le cigare aux lèvres, qu'il tire sa révérence. Enfin, il dit qu'il a encore 2 scénarios à finir. Écoutez.
I'm finishing
Je termine ma vie de film.
Movie life.
My movie ma vie de réalisateur.
Life by doing
en finissant ces 2 scénarios.
And after,
puis je dirai au revoir au cinéma.
Say goodbye cinema.
Godard, qui a fait cette déclaration pour le Festival international de Kerala en Inde, lors d'une longue interview que l'on peut découvrir sur YouTube, interrogé sur la pandémie, il n'a pas perdu son humour, comparant le virus au cinéma. Les 2 projets dont il parle, et dont l'un s'appelle Scénario, et oui, du Godard pur jus, doivent déboucher sur un film qui sera diffusé sur Arte. Cela faisait plusieurs années déjà que Jean-Luc Godard se faisait discret. Il y a près d'un an, lors d'une masterclass en Suisse, le cinéaste avait déploré la disparition des grands auteurs et des grands comédiens. La mort d'Anna Karina, l'une de ses actrices fétiches, avait enfoncé le clou. Godard ne fera peut-être plus de films, mais son cinéma, lui, est éternel.
C'est trop joli, mes fesses.
Oui.
Et mes seins. Tu les aimes?
Oui.
Éternel, effectivement, notamment cette scène du mépris de Jean-Luc Godard.
Réplique éternelle. Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure évidemment à 18h30 pour le rappel des titres. La météo avec Anissa Dadi qui nous annonce un temps plus sec mais ensoleillé demain.
Oui, dès le début de la journée, le soleil est de retour sur les Hauts-de-France et sur la Normandie. Demain, bonne nouvelle, c'est à l'est en fait que le temps va rester instable avec de l'Alsace jusqu'aux Alpes du Nord, donc le long des frontières de l'Est, des chutes de neige à partir de 800 mètres d'altitude et des averses tout au long de la journée sous ce ciel très gris dans le Grand Est. Ailleurs, après la dissipation des brouillards dans le sud-ouest et des entrées maritimes au bord de la Méditerranée, eh bien sachez que le soleil fera son grand retour sur une grande partie du pays demain. L'après-midi est agréable, sauf le long des frontières de l'Est où le ciel reste gris, tout comme sur les Pyrénées où quelques ondées ne sont pas impossibles demain. Les températures, elles sont fraîches, elles continuent de baisser avec moins 1 degré à Charleville-Mézières, 0 le matin sur les Hauts-de-France et les Ardennes, 2 à 4 degrés sur la moitié nord et jusqu'à 8 degrés dans le sud. Au meilleur de la journée, il fait frisquer. 4 à Langres, 7 à Lille, 8 pour Paris et Besançon, 12 à Aurillac et Biarritz, 13 à Lyon, 16 à Montpellier et la maximale est prévue dans le sud pour Nîmes et Marseille avec 17 degrés.
Eh bien voilà qui est dit, du beau temps un peu partout et de la chaleur notamment dans le sud. Merci Anissa,
à tout à l'heure
18h30.
Europe 1, Julien Bugier.